excellente transition avec la table ronde qui va suivre, qui va être une table ronde sur la gouvernance et les aspects sociaux et sociologiques des réintroductions. Merci à vous, messieurs. Julien et Danchenk, donc on vous garde en otage pour la table ronde. Vous allez être rejoint par Nathalie Toste de Souza du PNR du Périgord Limousin, qui représente la Fédération des PNR, Catherine Ménard, qui était là tout à l'heure, de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, et Raymond Faure, fondateur et président de l'Écopôle du Forêt. Alors, on va donc parler des conditions sociales et des conditions de gouvernance des réintroductions. Je voudrais vous demander de réagir tous à une petite actualité que j'ai relevée ces jours-ci. Le titre, c'est « Courlis-André, deux points, réintroduit en Pologne, flingué en France ». Une association polonaise de protection des oiseaux soutenue par la LPO dénonce la politique française qui fait la part belle aux exigences des chasseurs, au mépris des efforts entrepris ailleurs en Europe pour sauver des espèces. Le 26 août, la balise GPS d'un courlis cendré réintroduit en Pologne cessait d'émettre alors que l'oiseau traversait une zone de chasse en Normandie. Le même jour, le Conseil d'État suspendait l'arrêté de la ministre Elisabeth Borne qui autorisait, donc illégalement, cette chasse. La décision du Conseil d'État entrait en vigueur le lendemain. À quelques heures près, le courlis aurait pu être sauvé. Sur cette information, d'un côté, on réintroduit avec tout ce que ça implique, éventuellement des coûts, de l'énergie, voilà. Et de l'autre côté, pas si loin dans la même zone, en Europe, on tire. Vous réagissez comment on va commencer par toi, puisque j'avais oublié de te citer Florian Kirchner, donc du ICN. Tu réagis comment à cette actu?
Oui, bonjour, je suis venu quand même. Oui. Non, j'avais pas prévu de réagir à cette actu, mais c'est juste déplorable. C'est juste incroyable, en fait. Les acteurs de Pologne qui travaillent sur cette espèce sont scandalisés, ils comprennent pas. Bon, clairement, il faut une réaction des autorités. Là. Enfin, on en est à un niveau de gravité assez fort, quand même, de ce qui se passe. Et il faut une réaction des autorités pour qu'on s'entende et que ça ne se reproduise plus, tout simplement.
Mais le type qui a tiré, quand il a tiré, il était dans son bon droit. Il était protégé par un arrêté qui n'avait pas été annulé par le Conseil d'État. Donc...
Oui, je pense, je vais laisser peut-être l'ONCFS répondre, mais oui, tout à fait. Je ne sais pas comment. Oui. Bien sûr, oui.
Comment non, mais je pense effectivement, il faut savoir que la France est le pays d'Europe qui a le plus d'espèces chassables, dont un certain nombre d'espèces qui sont sur la liste rouge de l'UICN. Et donc, là, je prends ma casquette ONG, c'est quand même affligeant d'être obligé d'aller au Conseil d'État pour attaquer un arrêté d'un ministère qui devrait être le ministère de la protection de la nature et pour faire comprendre effectivement qu'il est grand temps d'arrêter de chasser des espèces en mauvais état de conservation. Je prends deux autres exemples, la tourterelle des bois. Hein. Faut vraiment être fin gourmet pour faire les distinctions entre une tourterelle des bois et un pigeon ramier. Je ne sais pas si dans la salle, il y a vraiment des gourmets dans ce domaine. Mais on se bat pour arrêter de chasser les tourterelles des bois, alors qu'ils se tuent de l'ordre de 4 à 5 millions de ramiers à travers la France et que l'espèce va bien. Alors, pitié, les chasseurs, si vous voulez manger du pigeon, tirer du ramier et foutez la paix aux tourterelles des bois. Bon, et le pire, et là je tiens à vous sensibiliser là-dessus, c'est l'introduction de cette notion d'exploitation judicieuse. Alors là, on est bon, en plein délire, c'est-à-dire que la France est en train de préparer un arrêté pour dire effectivement que certaines de ces exploitations que l'on dénonce seraient judicieuses. Et nous, on a commencé à dire au ministère, je vous préviens, nous, on attaquera pour exploitation non judicieuse. Et on va créer effectivement une jurisprudence dans ce domaine. Mais franchement, ça ne nous amuse pas, d'autant plus quand même qu'on a d'autres sujets de préoccupation. Et donc, je prends un autre exemple, la prolongation en février de la chasse aux oies. L'an dernier, nous avons dit au ministère, ça va être la 12e fois que vous demandez la prolongation de la chasse aux oies. 11 fois, on a été en Conseil d'État, on a gagné. Si vous redemandez, on est des gentils garçons, donc on vous prévient qu'on retournera en Conseil d'État et que statistiquement, vous avez une forte chance de perdre. Eh bien, on a rejoué ce jeu de cons. Et on va sans doute le rejouer pour la 3e fois en janvier. Donc c'est parfaitement affligeant.
Ok. Raymond Faure, là-dessus.
Alors, comme j'ai deux casquettes, je vais prendre la première. C'est fondateur d'Écopôle du Forêt, 500 hectares le long du fleuve Loire, protégé, avec un observatoire de 400 mètres carrés sur pilotis, en bois. Donc, en tant que responsable de l'Écopôle, je vais vous faire une réponse en tant que responsable de l'Écopôle. Si je ne veux pas que mon observatoire de 400 hectares en bois chauffé et aménagé brûle, je suis obligé de dire il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas parce qu'il y a un crétin parmi les 1 million de chasseurs en France qui a tué ce courlis qu'on va le jeter l'opprobre sur les chasseurs. Bon, alors maintenant, je quitte ma casquette, je prends la casquette du président de France Nature Environnement du département de la Loire. C'est vrai qu'il ne faut pas généraliser. C'est vrai que 1 million de chasseurs, ils ne sont pas tous complètement dégénérés. Il y en a au moins un qui ne l'est pas, ou deux.
Bon, merci. Alors, oui, Catherine Ménard.
Donc juste pour finir sur une note positive pour le courlis, je vous ai dit tout à l'heure que les mesures outardes bénéficiaient à d'autres espèces et le courlis fait partie des espèces qui bénéficient des mesures mises en place pour l'outarde et on a une augmentation des populations de courlis en Poitou-Charentes parce qu'ils viennent nicher sur les MAE.
Alors, gardez le micro parce qu'on va quand même revenir sur pas mal de thèmes qui ont été évoqués ce matin et notamment sur la coopération entre les porteurs de projets de réintroduction et les milieux agricoles pour un certain nombre d'espèces. Est-ce que on a vu des cas, on a vu le maire tout à l'heure de la commune alsacienne, M. Bord, on a entendu la co-gestion de l'espace naturel dans l'Acro. Selon vous, vu d'une DREAL, c'est quoi les conditions pour que la coopération avec les milieux agricoles se passe de façon, on va dire, productive?
Les expériences qui fonctionnent chez nous pour les MAE, c'est par exemple qu'on ait une co-animation, chambre d'agriculture et association de protection de la nature, sachant que les chambres d'agriculture sont un peu là pour être la caution morale auprès des agriculteurs, mais l'animation de terrain se fait par les associations de protection de la nature, aussi parce que c'est nécessaire d'avoir des compétences pour savoir si la parcelle est bien localisée au regard des besoins écologiques de l'espèce. Donc, il y a besoin d'une expertise de territoire sur le point de vue écologique qui est nécessaire, mais le fait que la chambre soit partenaire permet de sécuriser aussi les exploitants qui sinon ont un peu de mal à s'engager dans des actions qui seraient que étiquetées écolo. Pour caricaturer. Donc c'est important que les partenaires agricoles soient impliqués. Donc nous, c'est le cas des chambres. Et après, progressivement, il y a les agriculteurs qui s'impliquent aussi à titre individuel. Le CNRS organise des rencontres agriculteurs-chercheurs tous les ans, de manière à ce que les agriculteurs soient au premier plan et soient tenus au courant des éléments qui sont issus du monde de la recherche et pour qu'ils puissent comprendre aussi à quoi servent leurs actions concrètement de terrain. Donc je pense qu'il faut que l'ensemble des acteurs du territoire, dans la mesure du possible, soient impliqués. On voit qu'en Deux-Sèvres, le conseil départemental est vraiment très impliqué. Il est animateur des 4 zones Natura 2000 dédiées à l'outarde canepetière. Ils sont propriétaires et financeurs du centre d'élevage. Ils avaient une politique sur les espaces naturels sensibles qui était justement de sécuriser les lecs à outarde. Donc ils étaient vraiment très impliqués et je pense que ça fonctionne. Le conseil régional est partenaire également. Donc je pense que toute la chaîne, si elle est impliquée, ça fonctionne. Après, les écueils sont que la PAC est ce qu'elle est, qu'on parlait de tout ce qui était macroéconomique, on le subit également. Et on ne peut pas tout résoudre au niveau local quand le contexte est défavorable. Par ailleurs, c'est le cas pour la chasse.
Est-ce qu'il y a une typologie ou une sociologie particulière des agriculteurs qui sont plus disposés à travailler dans le sens d'une attention portée à la biodiversité ? ou bien, derrière ma question, est-ce qu'il y a une question de génération chez les agriculteurs? Est-ce que les jeunes agriculteurs qui s'installent sont plus, on va dire, ouverts au dialogue ou,
Je ne suis pas compétente en sociologie, mais de ce que j'en ai vu, ça n'a pas un rapport avec les générations. On a des agriculteurs qui sont proches de la retraite, qui sont très impliqués. Il y en a un qui a appelé son GAEC, GAEC de l'Outarde. Enfin, il y en a qui sont vraiment très impliqués, même sur le Tarn. Donc, voilà. C'est... Mon expérience, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y a un effet génération.
D'accord.
Mais peut-être.
Oui, Julien.
Oui, alors, effectivement, au niveau du dossier Hamster, alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que j'ai eu la chance, ça fait une dizaine d'années que je suis sur le dossier, au début, il a fallu 10 ans simplement pour que la profession agricole accepte qu'on vienne leur parler d'un enjeu environnemental. Donc, c'est 96 premières réunions très, très houleuses en comité de pilotage. 2007-2008, la Chambre d'agriculture accepte de s'engager en faveur de l'espèce. Et ensuite, derrière, c'est l'étape ultérieure, ça a été... on discute un peu, mais c'est toujours les instances un peu dirigeantes du plan qui disent aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Donc, ils étaient un peu dans une position infantilisée. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'effectivement, objectivement, ils ont vraiment contribué... Enfin, le système agricole a contribué au déclin. Mais après, à un moment donné, il faut accepter de faire confiance. Et tout le monde, de prime abord, se dit, si je discute avec un agriculteur pour négocier une MAE, 9 chances sur 10 que la MAE elle soit nulle derrière, parce que tout va être nivelé par le bas. Mais en même temps, c'était la condition pour que les agriculteurs soient vraiment partie prenante des décisions. Et ce qui a été fait, par exemple, en 2015, dans le cadre d'un programme LIFE à l'ISTER pour développer de nouvelles pratiques agricoles, c'est qu'on a eu, pendant plusieurs mois, on a fait le point sur les objectifs agricoles. Donc, qu'est-ce qui est important pour l'agriculteur? Avoir des sols fertiles, avoir des parcelles assez propres. On a fait le point sur les objectifs Hamster, on a croisé ça. Et ça a permis de démarrer un travail, finalement, de partenariat, où on avait en tête l'objectif environnemental, l'objectif agricole. On a essayé de trouver un chemin de traverse pour faire du gagnant-gagnant. Bon, c'est le terme que j'aime pas trop. Voilà, on a essayé de faire ça. Et donc, après, quand on parle de typologie des agriculteurs, ce qui est aussi intéressant, la gestion collective, on peut l'utiliser pour des coulées de boue, on peut l'utiliser pour d'autres espèces. C'est un outil génial. Avant cet outil-là, quand c'était des MAE individuels, c'était principalement les petits agriculteurs double actifs qui s'engageaient avec des petites parcelles. Avec le nouvel outil, c'est un outil qui est beaucoup plus souple, et en fait, c'est plutôt les gros agriculteurs qui s'engagent. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que les gros agriculteurs touchent beaucoup d'argent avec cet outil-là, mais on a plusieurs cas d'agriculteurs qui acceptent de prendre des risques sur quelques dizaines, enfin on va dire 10-15 hectares, pour tester de nouvelles techniques, parce qu'ils savent que la MAE leur donne suffisamment d'argent par ailleurs, donc ils vont tester des choses. Et donc, avec cet outil collectif, finalement, on arrive à englober tout le monde. Et le maire d'un village, qui était avant Jackie Bohr à Blessheim, disait « soit on y va tous, soit personne n'y va ». Donc c'est aussi la force de cet outil d'entraîner, finalement, au-delà des typologies d'agriculteurs, on entraîne tout le monde.
Merci. Nathalie Tost de Souza, la concertation entre acteurs d'un territoire, c'est un peu le fonds de commerce des PNR, c'est l'un des savoir-faire des parcs naturels régionaux. Au PNR du Périgord-Limousin, vous avez travaillé sur une opération de réintroduction, celle de la moule perrière, alors, qui a besoin de cours d'eau d'excellente qualité. Et donc, il faut mettre tout le monde d'accord pour restaurer la qualité des cours d'eau. Comment on fait ?
Alors, c'est beaucoup de temps de préparation, parce qu'en fait, dans le cadre du LIFE du coup, que je coordonne au Périgord-Limousin, on est sur un cours d'eau du coup en tête de bassin versant et du coup il y a des obstacles à la continuité qui sont souvent des anciens seuils qui sont plus du tout en activité. Donc on est sur des parcelles qui sont privées et dans le cadre de la restauration de la continuité écologique, on est obligé de faire beaucoup de concertations avec les élus qui portent le projet avec nous et surtout avec les riverains. Donc c'est énormément de temps, énormément de réunions. Ça a mené en tout cas 2 ans de concertation avant d'arriver à faire quelque chose. Et quand on parle en plus d'une espèce comme la moule perlière dans notre cas, donc c'est une espèce qui est assez méconnue, je pense que beaucoup d'entre nous, moi la première avant d'arriver au parc, je n'avais pas forcément la connaissance de cette espèce, et en plus voilà, elle est présente, mais c'est difficile d'en parler, mais on y arrive, voilà. Grâce aux associations justement locales qui font beaucoup d'actions sur...
Est-ce qu'il y a un parcours obligé de la concertation? Est-ce qu'on se dit au départ, ça va être, on va rencontrer une hostilité, il va falloir du temps même pour que, comme le disait Julien Edenchenk, le monde agricole accepte qu'on lui parle, qu'on lui tienne un discours sur des questions environnementales? Est-ce que quand on démarre une concertation, on sait qu'il va falloir passer par toutes ces étapes, etc. Est-ce qu'il y a un chemin balisé?
Il n'y a pas de chemin balisé, mais il y a un chemin de croix, c'est sûr.
D'accord. Et alors, décrivez-nous un peu ça. C'est quoi, ça a été quoi les étapes de votre chemin de croix?
Donc, comme je disais, beaucoup de réunions de concertation, c'est vraiment ça le principal. Et on s'est énormément basé sur les élus locaux. Les élus locaux nous ont beaucoup porté, parce qu'en fait, dans le cas du programme là, que je disais, on est sur des parcelles privées. Il y avait une obligation de restauration de la continuité écologique sur des parcelles privées. Donc les gens, les anciens, quand ils ont acheté ces propriétés à l'époque, il y avait des moulins dessus. Il y a des lois qui existent et qui leur disent « Mais attendez, là, sur ce coup d'eau, vous devez restaurer, vous devez sortir de votre poche des fonds sur des chantiers qui peuvent parfois coûter 200 000, voire 400 000 euros. » Et donc on est arrivé un peu avec cet élément-là clé en disant « Mais attendez, on va faire un projet avec vous. » Mais on va aussi vous accompagner dans cette mise en conformité donc avec un petit peu d'argent. Et donc, c'est plutôt bien passé à ce moment-là quand on a commencé à parler, malheureusement, d'économie.
Alors, voilà. Vous êtes en train de dire que la concertation, ça va, c'est beaucoup plus facile quand on met un chèque sur la table.
Dans notre cas, oui.
D'accord. Raymond Faure, on a parlé tout à l'heure des réintroductions de vautours. Vous y avez participé dès l'origine. Vous étiez parmi les membres de la mission Rapace de la LPO, vous avez fait l'objet d'attaques parfois violentes, alors notamment de la part du milieu agricole. Pourquoi est-ce que c'est quoi le ressort de cette agressivité? Pourquoi c'est si difficile de ramener certaines espèces dans leur milieu naturel, surtout quand, comme on l'a vu avec la petite présentation de Gilles Rayet, elles ont quand même un effet plutôt bénéfique?
Vous posez la vraie question, parce que aujourd'hui, j'ai eu une époque, j'étais fonctionnaire bénévole, parce que je suis resté 35 ans membre du Conseil national de protection de la nature, où j'ai voté pratiquement toutes les réserves naturelles françaises, et j'ai vu devant moi, à chaque réserve naturelle, l'opposition systématique des agriculteurs et de leurs amis chasseurs. Alors, on s'était toujours posé la question. C'est pour ça que quand j'ai créé l'Écopôle du Forêt, avec vu cette expérience, je n'ai pu le réussir au milieu de la plaine du Forêt, je ne vous explique pas la mentalité agricole, parce que nous avons acheté tous les terrains que nous avons mis en réserve. C'est une expérience qui est faite par les anglo-saxons. Nous sommes propriétaires des 400 hectares que nous avons mis en réserve privée.
Donc vous avez fait de la protection foncière?
On a fait de la protection.
Comme foncière. Le conservateur du littoral ou...
Voilà, sauf que nous, nous ne sommes pas comme le conservateur du littoral, dépendant effectivement de la haute administration. Nous sommes complètement privés. Pas tout à fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand nous avons créé l'Écopôle du Forêt, on a eu évidemment tout le monde contre nous. Et l'idée, c'était qu'on puisse... Oui.
Je vais parler dans le micro.
L'idée, c'était qu'on puisse avoir une puissance politique, parce qu'il faut parler, il faut appeler un chat un chat. Et pour avoir cette puissance politique, nous avons fait de l'éducation à l'environnement, 10 000 scolaires en stage tous les ans, 60 000 visiteurs, c'est pratiquement gratuit pour venir chez nous. Et à l'époque, nous avions été financés pour faire cette gratuité par les élus de la région, le ministère, etc., l'agence de l'eau et tout. Et puis tout d'un coup, quand on a eu 1 500 000 visiteurs, on est devenu incontournable. C'est peut-être pour ça que l'Écopôle n'a pas encore brûlé. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis, ne donnez pas de bonnes idées à vos amis, hein, surtout du côté de l'Office de la chasse. On s'est dit, maintenant, c'est gagné. Pas du tout. Parce que vous savez que dans la région Rhône-Alpes, ceux qui ne sont pas d'ici, la politique a changé. Et, brutalement, nous avons été asséchés. Ils ont dit, nous sommes fait assécher en nous supprimant nos subventions de la région. Heureusement, nous avons des donateurs privés qui nous soutiennent, sinon nous serions fermés. Nous avons 30 salariés, quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'achat et la propriété foncière qui nous a sauvé la vie. Parce que sinon, nous aurions été virés. Et aujourd'hui, nous sommes menacés, mais nous en sortirons parce que justement, à travers le financement privé, et puis peut-être qu'un jour, il faut toujours espérer... Moi, avec mon grand âge, j'en ai tellement vu, je me dis peut-être que la première fois, il va y avoir du dégagisme. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous. Les jeunes, n'oubliez pas de nous les virer, hein, parce que on en a marre. Sinon, on est foutus. Enfin, surtout vous, parce que nous, c'est fini déjà.
Quoi qu'il en soit, oui.
Donc, allez-y, hein, dégagez, on vous aidera. Hein. Si vous n'avez pas d'idée ou si vous n'osez pas, venez me le dire. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui s'est passé? Même parmi nos amis. Quand l'Écopôle s'est créé au bord du fleuve Loire, le castor avait disparu depuis le Moyen-Âge, nous avons réintroduit le castor.
Eh bien, chez nous, on est venu nous dire, et on me l'a dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux de rencontrer les gens des parcs zoologiques et des parcs de vision, parce qu'on est venu me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je t'ai connu un peu comme un peu dur. Chacun joue son rôle. On m'a dit, mais tu veux créer un zoo? Tu veux réintroduire des castors? C'était mes copains, mes voisins, mes paysans, dans ma famille. Je suis d'une famille d'agriculteurs. Mais tu es fou! Après les castors, tu vas réintroduire des gnous et des éléphants. Vous voyez, le niveau, mais c'est la plaine du forêt. Hein. Et donc, je me suis retrouvé moi-même confondu avec un zoo. Et après réflexion, je me suis dit, pas du tout. Regardez les réserves naturelles françaises. C'est même pas 1% du territoire, c'est même pas un confetti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'écopôle et les parcs zoologiques et les réserves naturelles, même si elles sont menacées, ne représentent pas grand-chose. Mais pourtant, ce sont des banques de biodiversité. Alors, il y a les banques de biodiversité comme l'écopôle, les réserves naturelles, qui sont des banques de biodiversité sauvages. Et puis, il y a les zoos, maintenant, c'est pour ça que je vous remercie. Vous êtes les coffres-forts de la biodiversité. Parce que chez vous, au moins, quand vous avez des animaux que vous êtes en train de réhabiliter, ils sont fermés à clé avec des barrières et au moins les gens ne viendront pas vous les flinguer chez vous, parce que nous, chez nous, c'est
quoique,
pas ça. Donc si vous voulez, il y a une complexité dans tous nos projets où on doit se retrouver, parce que autour de nous, nous n'avons pas une France et un monde tranquille.
Mais je reviens à ma question. Pourquoi la réintroduction de certaines espèces, et notamment les vautours à laquelle vous avez participé, suscite tellement de crispation, de blocage, d'hostilité, voire de violence, alors que, encore une fois, Gilles l'a montré tout à l'heure, c'est plutôt bénéfique pour tout le monde, y compris pour le milieu agricole.
Alors, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, j'ai oublié, quelqu'un l'a dit, c'est qu'il y a une méconnaissance. Les vautours avaient disparu. Il n'y avait plus, sauf dans les Pyrénées, il n'y avait plus, si vous voulez, l'habitude des gens de voir des vautours. Dans la région Rhône-Alpes, on a fait une opération qui a été faite une seule fois. Le président régional de la Chambre d'agriculture, bon, il se trouvait que je le connais bien, et en plus, c'est un viticulteur. Alors, bon, ce n'était pas un berger. La présidente de la Chambre d'agriculture de la Drôme et une personne de l'Isère, que j'avais provoqué dans une réunion, je ne me fatigue pas beaucoup pour le faire, c'est naturel chez moi. Je leur avais dit, venez un jour assister à une curée de vautours et arrêtez de nous dire, parce qu'ils écrivaient dans tous les journaux de Rhône-Alpes, les loups, les vautours, ces prédateurs qui vont détruire le cheptel. Bon, alors déjà, il faut avoir pas fait d'études très longtemps pour mettre le vautour et le loup dans la même famille. Enfin bon, on va leur pardonner, ce n'était pas de leur faute. Et j'ai réussi, en les provoquant en public, à les emmener faire une curée de vautours réelle dans les baronnies. Et à la sortie, les trois m'ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous ne confondrons plus, nous, les prédateurs et les nécrophages.
Les charognards.
Ils avaient compris. Mais ils m'ont quand même ajouté après, mais ne te fais pas trop d'illusions, parce que nous, dans notre métier, on va être minoritaire et on va mettre longtemps avant de faire comprendre. Donc c'est un problème d'éducation. Et il faut aller, ceux qui peuvent, aller voir les agriculteurs, discuter avec eux pour expliquer. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce que c'est vrai, il l'a dit tout à l'heure, 100 vautours sur une brebis quand vous ne l'avez jamais vu à côté, ça peut impressionner. Et après, vous avez dans la presse, alors la presse, n'en parlons pas, monsieur machin a vu les vautours tomber sur son mouton, il a tellement eu peur qu'il est rentré chez lui et ils ont mis leurs enfants sous le lit.
Là, vous commencez à devenir désagréable.
Oh, mais ça, vous prenez les ah oui, mais excusez-moi, s'il faut être agréable, il fallait le dire avant. Par contre, vous prenez les coupures de presse et puis vous lisez, vous verrez. Il y a tout.
Je sais. Oui, Julien.
Juste intervenir par rapport à l'éducation et le fait d'associer effectivement les enfants, le système éducatif au programme. Alors je parle d'un petit exemple hamster, après je vais élargir un peu. entre 2009 et 2012-2013, on a systématiquement associé des classes d'école ou de périscolaires au lâcher de hamster. Bon, après, on a arrêté parce que ça devenait un peu compliqué à gérer. On allait uniquement dans les classes. Mais en fait, on a des agriculteurs qui étaient vraiment mordicus, opposés au programme, et qui, par vraiment un peu le hasard provoqué, ont travaillé avec les écoles des villages dans lesquels on faisait les lâchers. Et ça nous est arrivé à deux reprises. Les agriculteurs nous ont dit, mais mon neveu, ma nièce, est venu me dire, super tonton, c'est génial ce que tu fais pour l'environnement. Et en fait, lui, ça lui a fait un déclic. Il s'est dit, mais finalement, c'est peut-être pas si nul ce programme. Et il a accepté effectivement le lâcher suite à l'appréciation positive de son petit neveu. Et donc,
Donc vous, votre recommandation, c'est de prendre les enfants en otage.
Mais en tout cas, non. En tout cas, la recommandation, c'est d'associer effectivement étroitement le milieu éducatif au programme de renforcement, parce qu'en fait, ça crée un moteur supplémentaire, effectivement. Quand vous disiez, vous êtes foutus, parce que voilà, vous êtes peut-être là moins longtemps que les petits, et c'est vrai que les jeunes, c'est notre avenir. Et en fait, ça aide les aînés à se mobiliser. Et en même temps, il y a l'étape supplémentaire, et moi, ce que j'aimerais vraiment, et j'en parle avec des associations locales, on a la chance d'avoir des agriculteurs en association. On a la chance d'avoir des associations de protection de la nature. Et je leur ai dit, essayez de discuter ensemble. On essaye de faire ça pour créer des sessions conjointes agriculteurs, associations de protection de l'environnement, écoles, pour créer des journées nature, agriculture, et pour que tout le monde y trouve son compte. Et essayer de mettre du lien. Et finalement, l'enfance, c'est ce qui nous lie dans le programme. Et alors, je fais juste un petit aparté, parce que l'Office français de la biodiversité, qui va être créé l'année prochaine, va continuer une action qui a démarré avec l'AFB, qui est par exemple les aires terrestres éducatives, où finalement des écoles s'engagent aux côtés d'un professionnel de l'environnement à aller étudier un milieu naturel, proposer un plan de gestion, et en échange l'école a un label aires terrestres éducatives, et donc les enfants viennent protéger leur territoire. Et donc voilà, toutes ces démarches là de mobilisation, il faut vraiment les associer à la gestion et à la science. Parce que c'est vrai qu'en aparté, un collègue me disait, à l'ONCFS par exemple, qui était en charge de plusieurs programmes de réintroduction, souvent l'aspect mobilisation, sensibilisation était un petit peu en deçà de ce qu'il aurait fallu faire. Et donc voilà, on espère qu'avec cette fusion des deux établissements, on arrivera à avoir une chaîne beaucoup plus cohérente dans l'action.
De l'intérêt de rapprocher l'ONCFS et l'AFB, comment n'y avait-on pas pensé plus tôt? Florian Kirchner, hier, on a parlé de la partie un peu technique des guidelines de l'IUCN international en matière de réintroduction. Sur l'aspect acceptabilité et préparation sociologique des opérations, que dit l'UICN, monsieur l'expert?
Ouais, alors je ne suis pas expert, il y a beaucoup plus d'experts des réintroductions que moi dans la salle. Mais,
bon, mais de l'UICN un peu quand même.
De l'UICN, oui, alors. Ce que dit ces lignes directrices. Alors, aujourd'hui, elle s'appelle ligne directrice pour les réintroductions et les translocations de conservation. C'est-à-dire, de la même façon que le groupe de spécialistes dont Jean-Baptiste Mioub parlait hier s'appelle aujourd'hui le groupe de spécialistes des réintroductions et des translocations, les lignes directrices s'appellent, ont pris le même titre, donc ça veut dire qu'elles concernent toutes les translocations d'animaux, donc ça veut dire les réintroductions, mais aussi les renforcements de population avec des sources d'individus sauvages ou issus de captivité. Et alors, ce que disent ces lignes directrices, c'est en gros quelles sont les lignes à suivre pour réussir une réintroduction. Alors évidemment, il y a plein de choses sur la réalisation technique de l'opération, comment choisir les animaux à réintroduire, comment choisir les sites de réintroduction, comment assurer le suivi et l'évaluation vis-à-vis des objectifs, donc plein d'autres choses de cet ordre. Mais alors, il y a une grande section préalable qui concerne l'acceptabilité. En gros, la question que pose cette section, c'est comment on doit décider qu'un programme de réintroduction est acceptable et opportun. Alors, pour en décider, il y a plusieurs conditions à remplir. Alors, il y a d'abord évidemment des conditions biologiques. On ne mène une réintroduction que quand on est assuré qu'elle va procurer un bénéfice pour la conservation de l'espèce, ou inversement, qu'on ne va pas menacer les populations sauvages si on fait un renforcement ou si on prend des individus issus du milieu naturel. Donc, il faut que la conservation assure un objectif de conservation de l'espèce. Il faut s'assurer que le milieu naturel va permettre la réintroduction de l'espèce, alors notamment en termes de capacité, si on parle de ressources alimentaires pour des nécrophages. Donc il faut s'assurer d'avoir un milieu qui peut accueillir l'espèce, sinon ça ne sert à rien de se lancer. Dans les autres facteurs, les autres conditions à vérifier, il y a tous les facteurs de risque par rapport aux menaces historiques. Donc il faut avoir proprement identifié toutes les menaces historiques qui ont fait régresser ou disparaître l'espèce. Parce qu'évidemment, il n'est pas question de réintroduire des animaux si on les expose à des menaces qui sont toujours présentes et qu'ils risquent de disparaître. Donc il faut s'assurer d'avoir enrayé les menaces. Et puis, on arrive à cette acceptabilité socio-économique. Donc, ce que disent ces guidelines, très clairement, c'est qu'on ne doit déclencher une opération de réintroduction que quand on a obtenu un bon niveau d'acceptation par les communautés locales. Alors, ce n'est pas uniquement un consentement ce qu'il faut obtenir, c'est plutôt une adhésion, quelque chose d'assez volontariste. Alors, ce que ça veut dire, c'est que avant même de lancer toute opération de réintroduction, donc bien sûr, il y a les conditions techniques et scientifiques à réunir, mais il y a toute une phase préalable de discussion, de dialogue à engager avec l'ensemble des acteurs. Alors, j'enfonce un peu des portes ouvertes, parce que j'ai l'impression que depuis hier, on ne parle que de ça, hein, finalement. C'est des choses qui sont aujourd'hui très ancrées dans les programmes qui sont menés en France, notamment. Mais pour dire les choses clairement, c'est avant de lancer un programme de réintroduction, il faut prévoir du temps pour discuter avec tous les acteurs. Alors, c'est du temps qui peut être long, ça peut prendre des années, mais ce temps initial qu'on peut avoir l'impression de perdre, c'est évidemment du temps gagné pour la suite, parce qu'il n'est pas question de lancer une opération de réintroduction si ensuite on soulève des hostilités qui peuvent menacer le programme. Donc ça veut dire identifier notamment toutes les sources d'hostilité possibles avec tous les acteurs du territoire et alors, dialoguer pour informer et convaincre, mais parfois c'est au-delà de convaincre, il faut mener des réunions de concertation pour trouver ensemble des solutions, enfin pour construire en fait les conditions qui feront que le programme de réintroduction sera accepté. Donc notamment des conditions d'acceptation économique. Donc ce que disent les guidelines en résumé, c'est qu'il faut obtenir ce niveau d'adhésion locale, mais en le faisant de façon proactive pour construire l'adhésion quand elle n'est pas au rendez-vous d'emblée pour des espèces dont le retour peut être très polémique ou vu avec beaucoup d'hostilité, pour des bonnes raisons évidemment du point de vue des acteurs. Ça concerne du coup des discussions avec le monde agricole quand c'est le cas, ou ça peut être les chasseurs, ça peut être les associations d'escalade si on en vient à intervenir, à interdire l'usage de certains sites. Ben, tout ça, il faut l'expliquer, et il faut expliquer qu'à la fin, tout le monde pourra y trouver son compte si on met ça en place dans des conditions bien préparées à l'avance.
Merci. Alors, à partir de maintenant, on va continuer cet échange, mais les micros sont disponibles pour vous. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à vous signaler et un micro parviendra jusqu'à vous. Bernard.
Oui, juste, je fais partie des gens qui détestent le terme acceptabilité. Parce qu'on voit bien qu'à chaque fois que, par rapport à quelque chose qu'on juge à tort ou à raison souhaitable, on a l'impression que la société n'est pas convaincue, tout de suite, on dit qu'il y a un problème d'acceptabilité. On l'a vu pour les OGM, on est en train de le voir pour la 5G, on l'a vu pour les antennes de télécommunications, etc. Et pourquoi je n'aime pas ce mot? C'est parce qu'il est biaisé, c'est-à-dire qu'il suppose d'emblée qu'il y a une polarité entre des gens qui ont raison et d'autres qui renâclent, mais qu'on va bien finir par convaincre. Et quand vous demandez à des gens des sciences sociales, vu en plus, on a un problème d'acceptabilité, je peux vous dire qu'ils vous renvoient dans vos chaises en disant ben non, vous avez un problème tout court. Mais mettez la balle au centre et acceptez effectivement que si vous discutez, ce n'est pas pour nous demander de convaincre des gens en considérant qu'a priori vous avez raison et les autres ont tort. Donc je pense que ce mot, je voudrais bien qu'on ne l'utilise pas, quoi.
Ok, alors c'est très clair. Donc. On va demander à l'huissienne de bien vouloir revoir sa copie. Voilà. Il y a un congrès bientôt, ça tombe bien, vous allez faire passer une motion. C'est ça. Bernard dit qu'on peut parler de perception sociale, mais pas d'acceptabilité.
Dans les guidelines, c'est acceptation et adhésion, en fait. C'est pas acceptabilité, le mot.
Donc, c'est pas la peine de faire une motion. Est-ce que... alors, moi, je voudrais être... Aller un peu plus loin, est-ce que dans le cas de réintroduction à problème, je pense aux vautours notamment, est-ce que si on avait attendu de vérifier que tout le monde est d'accord, est-ce qu'on aurait réintroduit des vautours?
Alors là, je regrette que Michel n'ait pas pu venir, c'est pour ça qu'il m'avait demandé.
Michel Terrasse.
Mais j'ai vu qu'il y en a qui sont aussi très amis avec Michel. Il a vu des choses, il faudrait qu'il les raconte lui-même. C'était hallucinant. Exemple, un des grands scientifiques français qui lui avait écrit une lettre comme ça au début en lui démontrant scientifiquement que la réintroduction des vautours en France était impossible et que ce serait un échec total. Enfin, argumenté. Bon,
30 ans plus tard, heureusement, parce que maintenant qu'il est mort, s'il avait trop attendu, on ne l'aurait pas su, il a réécrit à Michel pour lui dire « je crois bien », c'est rare, un scientifique qui dit qu'il s'est trompé, il a dit « je crois bien que je me suis trompé quand je t'avais dit que ça ne réussirait pas, on a vu les chiffres tout à l'heure, c'est clair ». Donc,
mais là, on est sur le version...
l'acceptation. Oui. L'acceptation, moi je crois, et je suis d'accord avec ce que on vient de nous dire, c'est que c'est un terme plus politique. C'est pas un terme scientifique. C'est un terme politique parce que les politiques, quand ils vous demandent qu'il y ait une bonne acceptation, c'est pour que eux ils disent si je le fais pas,
pas d'emmerdement.
C'est pas de ma faute, j'ai pas d'emmerdement. Regardez, là, tant qu'il n'y a pas l'acceptation, on peut pas. Et comme il sait qu'il l'aura pas, il sait qu'il aura rien à faire, donc c'est très bien. Parce que l'acceptation, c'est vrai que si vous attendez que tout le monde soit d'accord pour lancer un projet, il y en a pas lourd qui vont se lancer.
Mais du coup, donc vous dites bien, effectivement, quand on a réintroduit, quand on a mené ces opérations sur les retours, on y est allé comme ça, sans trop poser de questions autour de nous. Sinon, on y serait.
Et bien sûr.
On y serait encore.
Bien sûr, bien sûr. Bon, on l'a pas trop dit, mais je crois que il est toujours là, Pierre. Parce que quand ils ont réintroduit les premiers vautours dans les Cévennes, le premier lot, qui était des vautours qui venaient d'Espagne, ils ont été flingués dans le mois qui suivait. Hein. Alors, c'est vrai qu'aussi, il faut être assez prudent. Mais peut-être que le sacrifice de ces vautours a déclenché une discussion très, très, très sévère, et ça a permis peut-être d'évacuer, de gagner un peu de temps. Mais on ne va pas faire assassiner des animaux de réintroduction pour pouvoir convaincre les imbéciles.
Ça pose un petit problème éthique.
Les ignares, oui. Pas
ça
les
imbéciles. Pose un petit problème éthique.
Voilà.
des questions, des interventions, des... Je vois... Oui, si. Avec un micro, qui habite
oui, en fait, c'est plus une réflexion. Et, en gros, c'est sur les tortues marines, Marineland et Association Marineland. En gros, nous, on a réussi la prouesse zootechnique et biologique de la reproduction de la tortue kawan en milieu captif. Et avec un espoir peut-être de pouvoir faire du renforcement de population. En parallèle de ça, avec l'Association Marineland, on a mené un programme. Enfin, on mène un programme depuis 2012 sur l'observation des tortues en Méditerranée. Du coup, c'est une campagne d'appel à observation. Donc, on fait un état des populations année après année pour essayer de voir l'évolution des populations au large des départements Alpes-Maritimes et Var. On va prendre en charge tous les échouages des tortues sauvages pour faire les autopsies. Et ainsi, on essaye de déterminer les causes de la mort. Donc, on va dire qu'on essaye de mener de front pour savoir pouvoir identifier les menaces qui pèsent sur ces animaux-là. D'un autre volet, on a donc réussi la reproduction. Et si aujourd'hui on nous demandait d'éradiquer ces menaces avant la réintroduction de ces espèces, ça paraît un peu... on n'y arrivera jamais, quoi. En gros, les menaces identifiées, ça va être les déchets, les matières plastiques. Ça, c'est la première menace.
Effectivement, il y a un chantier, si on veut commencer par éliminer ça, oui.
Après, bon, on a la pêche à la palangre, et ça, on bosse avec les pêcheurs très bien, et la collision avec les bateaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, s'il faut attendre qu'on ait éradiqué la pollution plastique avant de pouvoir espérer réintroduire une espèce, ça reste compliqué.
Mais de l'autre côté, à quoi bon les réintroduire si elles bouffent des sacs plastiques?
Oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, l'évolution des populations, alors, espèce en danger qui est passée vulnérable, mais on a aussi lié à la problématique, c'est une espèce migratrice. Donc, autant d'habitats traversés, autant de menaces de plus en plus importantes, en fonction de leur stade ontogénétique, en plus. Et du coup, on arrive surtout à une question. Le rôle des parcs animaliers là-dedans, est-ce qu'ils continuent la reproduction d'une espèce où finalement, on ne sait pas si un jour une réintroduction sera possible. Donc, il y a ça. Et ensuite, les pays frontaliers, l'Espagne, l'Italie, qui nous demandent de travailler avec eux, parce que eux ont cette possibilité, par contre, de pouvoir réintroduire l'espèce à l'échelle de la Méditerranée, mais donc chez eux. Enfin, du coup, voilà, c'est plus une réflexion sur la réintroduction d'une espèce migratrice, donc avec des problèmes liés à son stade de développement. Voilà, identifier les menaces, on l'a fait. Éradiquer les menaces, c'est compliqué. Et ensuite, de voir qu'il y a quand même un souhait des pays limitrophes de renforcement des populations. Et nous, on est un petit peu au milieu, en essayant de faire les choses le mieux possible, mais voilà.
Merci pour ce témoignage. Dernière intervention, si le micro peut circuler jusque-là, et puis ensuite, on entendra le mot de Bernard Chevassuot-Louis et d'un autre grand témoin improvisé.
Oui, Nicolas Poulet, AFB. Une petite anecdote qui m'a fait comprendre que ce n'était pas gagné, puisqu'on voyait avoir des conflits entre protecteurs de la nature. J'ai discuté avec le responsable du belvédère des vautours dans les Vosges, qui m'expliquait tout le travail qui avait été fait, qu'il est justement de dialogue local, etc., avec les pastoraux, les éleveurs et les bergers. Et je lui dis oui, c'est un peu comme le loup. Il me dit ah non, par contre, le loup, là, je suis beaucoup plus tiède dessus. Justement, on commence à avoir des problèmes, puisque voulant se débarrasser du loup qui arrive, les éleveurs et les bergers tendent à empoisonner certaines carcasses. On se retrouve avec des mortalités de vautours. Et là, je me suis dit, là, on a un problème. Là, c'est vraiment pas gagné. Bon, je parle du loup, c'est pas de la réintroduction, hein, bien sûr, c'est de la recolonisation naturelle. Mais voilà, on a deux espèces emblématiques et on risque d'avoir un conflit non direct, indirect, sur leur retour respectif.
Je ne sais pas s'il y a une réponse à vous apporter. C'est une question qui nous laisse tous un peu perplexes, mais effectivement, c'est une grande question.